Europe Matin, Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1, nous sommes le jeudi 11 novembre, jour férié, et nous sommes là avec vous.
Oui, fidèle à votre poste, hein, on est là jusqu'à 6h30 dans l'actualité ce 11 novembre, Julien.
La perpétuité pour le meurtrier de Mireille Knoll, 15 ans pour son complice, le mystère à Sablé-sur-Sarthe après la réapparition de la joggeuse, qu'est-il arrivé à cette adolescente de 17 ans? Et puis la pression migratoire de plus en plus forte sur la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, nous y retrouverons notre envoyé spécial Marion Gauthier.
À la une également un rapport qui fait beaucoup parler.
Oui, parce qu'il dit en gros à nos dirigeants, vous avez eu ces dernières années tout faux sur l'immigration. À force de la pointer du doigt, de la rendre responsable à tort de tous les maux de notre société, eh bien, les immigrés qualifiés, ceux qui ont un diplôme, préfèrent aller ailleurs. Résultat, 38% des titres de séjour que l'on accorde vont à des personnes ayant au mieux le niveau brevet des collèges.
Et c'est un vrai frein pour notre économie et son développement.
C'est même l'une des raisons de la pénurie de main-d'œuvre que rencontrent de nombreuses entreprises en ce moment. Voilà ce que dit le Conseil d'analyse économique. C'est passionnant et nous serons avec la auteur de ce rapport à 6h10, l'économiste Emmanuel Auriol. Omblin, on parle également ce matin de cette marche des pères pour l'égalité parentale.
Ils sont 10 des pères, mais aussi des mères qui viennent de se lancer dans un long périple de 800 km, parti de Marseille hier. Ces marcheurs comptent rejoindre Paris le 17 décembre avec comme ligne d'arrivée l'Assemblée nationale.
Et avec comme revendication principale, faire de la résidence alternée le principe de base lors de la séparation des parents.
Voilà, en France, selon le dernier chiffre de l'INSEE, sur 4 millions d'enfants de parents séparés ou divorcés, seulement 12% sont en garde alternée. Nous serons avec un papa marcheur à 5h40. Rémi Martineau, il est le co-organisateur du collectif La Marche des Pères pour l'égalité parentale 2021.
On va déguster également le meilleur flan pâtissier d'Île-de-France grâce à la prescription culture d'Olivier Pouls et on terminera avec votre partition Omblin.
Deux artistes américains qui se sont engouffrés dans un genre à jamais indémodable. La musique disco-funk 2.0 du duo Silk Sonic, c'est-à-dire Bruno Mars et Anderson .Paak, rendez-vous à 6h20.
Voilà donc pour une partie du programme. On commence avec la météo. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Est-ce que les célébrations de ce 11 novembre vont se dérouler au sec aujourd'hui?
Alors ça va dépendre pour qui. Ça va dépendre où vous êtes en repos en ce 11 novembre. Ce matin, au nord de la Loire, on a un temps quand même qui est très brumeux. Donc si vous êtes déjà sur la route entre la Bretagne et l'Alsace, en passant par le bassin parisien, les Hauts-de-France ou encore le Nivernais, et même jusqu'à la région lyonnaise, là il y a beaucoup de brouillard ce matin. Dans le sud, le ciel est plus dégagé, sauf au bord de la Méditerranée. Depuis dimanche, on a un système dépressionnaire qui s'appelle Blas et qui nous apporte quand même beaucoup de nuages et beaucoup de pluie. Donc ce matin encore, on a de fortes averses, principalement localisées sur les Pyrénées-Orientales. Cet après-midi, le temps reste agité sur le golfe du Lion avec pas mal de pluie. On a d'ailleurs de nouvelles pluies qui arrivent sur la Corse, mais partout ailleurs, je vous rassure, on a un temps ensoleillé et en plus de ça, plus doux qu'hier. Bon, sortez pas les t-shirts non plus, mais il fera un peu moins froid. On a moins 1 à 16 degrés ce matin et 9 à 21 degrés cet après-midi. Pour vous dire, cet après-midi, on aura 1 à 2 degrés de plus qu'hier. Voilà.
Ça va, c'est un chouïa plus. Merci beaucoup.
C'est déjà mieux.
Anissa Haddadi, bon réveil à tous sur Europe 1. Il est 5h. On tape toujours sur les étrangers en situation irrégulière, jamais sur les entreprises, disait hier le ministre de l'Intérieur sur notre antenne. Eh bien, Europe 1 a enquêté, les contrôles vont être renforcés et multipliés. Objectif, traquer et sanctionner ceux qui emploient illégalement des étrangers. L'impuissance des Polonais à la frontière avec la Biélorussie, des milliers de migrants instrumentalisés par Minsk dans le but de créer une nouvelle crise aux portes de l'Europe. Reportage dans ce journal de notre envoyé spécial en Pologne. Et puis Thomas Pesquet rêve, lui aussi, de faire ce petit pas, celui sur la Lune. Un rêve qui pourrait devenir réalité puisque la NASA compte y envoyer d'ici 4 ans des astronautes, des Américains bien sûr, mais aussi 3 Européens dont pourrait faire partie le Français.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Le premier journal de ce jeudi 11 novembre vous est présenté par Alban Leprince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. On tape toujours sur les étrangers en situation irrégulière, mais jamais sur les entreprises qui les emploient. Le regret exprimé hier sur Europe 1 par Gérald Darmanin au moment où le débat sur l'immigration prend de plus en plus de place dans la campagne présidentielle. Élise Dangean, vous avez mené l'enquête pour Europe 1. Le ministre de l'Intérieur tape du poing sur la table.
Oui, ce que nous pouvons vous révéler ce matin, c'est que les contrôles aléatoires dans les entreprises vont être, dans les jours à venir, renforcés et multipliés. Une mesure de fermeté, assume-t-on dans les rangs de Gérald Darmanin. Position partagée par le ministère du Travail, qui indique même que les premiers contrôles ont déjà révélé des situations indignes. Les entreprises concernées seront donc sanctionnées. Objectif, montrer que chacun doit prendre ses responsabilités, car en effet, si aucune entreprise n'admet avoir recours à des travailleurs en situation irrégulière, toute se renvoie la balle. C'est la faute de l'agence d'intérim ou du sous-traitant. On a des soucis pour vérifier les documents administratifs et traquer l'usurpation d'identité. Reste que le phénomène existe et n'est pas nouveau. Selon les derniers chiffres dont on dispose, l'infraction d'emploi d'étrangers sans titre est la deuxième relevée dans le champ du travail illégal. Elle représentait 11% de toutes les infractions en 2016. Une réalité que nous a confirmé un grand patron d'un des secteurs concernés, comme le bâtiment, la restauration ou encore la propreté. Avec ces contrôles, le gouvernement adresse donc un signal fort pour freiner cette immigration illégale.
Merci Élise Dangean du service Écho d'Europe 1.
Ce que fait le régime biélorusse, ça s'appelle tout simplement du trafic d'êtres humains. La déclaration de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement.
Oui, des milliers de migrants, principalement kurdes, irakiens, instrumentalisés par le régime d'Alexandre Loukachenko.
Massés à la frontière polonaise, utilisés comme bouclier humain dans le but de créer une crise aux portes de l'Europe.
Un terrorisme d'État, accuse Varsovie. Sur place, le sentiment d'impuissance domine. Le reportage en Pologne de Marion Gauthier.
Un bourdonnement devenu habituel. Des hélicoptères, des drones ont remplacé les camions qui traversaient Kouchnitsa et la ville s'est endormie, raconte Sébastien, à proximité de la zone interdite sur une petite route forestière.
Il y a moins de monde dans les rues. Une partie des magasins ont fermé. Et nous, on s'investit plus au travail et c'est tout. Tout pour ne pas penser à ce qui se passe ici.
Plus au sud, Mac témoigne lui aussi à l'abri des regards. Il tenait une auberge avant que les touristes ne soient exclus.
On vivait calmement ici, même trop calmement. Aujourd'hui, c'est l'extrême inverse. On ne peut pas s'endormir à la maison. Parce que toute la nuit, des camions de l'armée vont et viennent autour de nous.
Mac, c'est le surnom de ce trentenaire au trait tiré, celui que lui donnent les migrants. Tous les deux jours, inlassablement, il tourne dans la forêt pour leur apporter des vivres et des vêtements.
Le pire, c'est de rencontrer ces gens et de savoir qu'ils vont passer la nuit suivante, les nuits suivantes, dans la forêt. Et ça pèse moralement.
Mélange d'impuissance et d'isolement pour ces habitants qui ne croisent plus chez eux que des uniformes. Anna Refka, Marion Gauthier, Europe 1.
Marion Gauthier, envoyé spécial pour Europe 1 en Pologne. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU se tiendra cet après-midi à la demande de la France, l'Irlande et l'Estonie.
Que ce soit à la première injection du vaccin contre le Covid ou à la deuxième, certains ont subi des effets secondaires plus ou moins gênants.
Certains redoutent donc la troisième dose après l'annonce de l'accélération de la campagne de rappel par Emmanuel Macron avant-hier, ouverte par exemple dès le mois prochain pour les plus de 50 ans. Alors, faut-il s'inquiéter des effets secondaires de cette nouvelle injection ? Élément de réponse avec Afsane et Saboui.
Vous faites peut-être partie des millions de Français qui ont eu un pic de fièvre, des douleurs dans le bras ou encore des symptômes grippaux après l'une de vos injections contre le Covid. C'est ce qu'on appelle des effets indésirables sans gravité. Francesco Salvo est pharmacologue à Bordeaux. Il coordonne le suivi de sécurité du vaccin Pfizer pour la France. Selon lui, il n'y a pas de raison de craindre un effet d'accumulation. La troisième dose n'est pas plus risquée que les précédentes.
Le fait qu'on n'a pas eu d'effet indésirable à la deuxième injection ne veut pas dire qu'on n'aura pas la troisième. Mais il n'y a aucune crainte de différence ni de fréquence, ni d'intensité ou sévérité par rapport à la deuxième.
De nombreux pays ont mis en place des systèmes de pharmacovigilance de grande ampleur pour surveiller les vaccins contre le Covid, ce qui a permis de détecter des effets rares et de faire évoluer les recommandations vaccinales.
On a de plus en plus de données, on a de plus en plus de recul, et donc la campagne vaccinale est de plus en plus sûre en fait. On sait qu'il ne faut pas administrer certains vaccins chez les jeunes. On fait le maximum pour minimiser les risques des patients.
Et enfin, soyez rassurés, le vaccin n'est pas moins efficace si vous ne ressentez aucun effet après la piqûre.
Afsane Saboui, spécialiste santé d'Europe 1.
Ce témoignage, je le dois aux victimes. François Hollande, très longuement entendu hier par les juges au procès du 13 novembre.
Oui, costume sombre et chemise blanche pour raconter son 13 novembre. Une audition de l'ancien président de la République réclamée par l'association de victimes Life for Paris, mais aussi par les avocats de la défense, puisque son nom a été cité de nombreuses fois depuis le début du procès.
lancée par Salah Abdeslam, mais aussi par les terroristes dans la salle du Bataclan en cause, l'action de la France en Syrie. Et forcément, Gladys Laffitte, le sujet était au cœur des échanges hier.
Oui, et notamment la question de la chronologie, puisque les terroristes et certains accusés ont justifié les attentats comme une riposte aux frappes françaises en Syrie. Alors pour contrer cet argumentaire, l'ancien président, très à l'aise à la barre, a donné une date, le 27 septembre 2015, premier bombardement français sur zone. Ce qui veut dire que le commando s'était organisé bien avant que je décide l'intervention, a-t-il fermement expliqué. Mais pour l'avocate de Salah Abdeslam, accusé attentif à l'échange, cette chronologie est imprécise, car elle ne comprend pas l'action française en Irak. Au Bataclan, il est évoqué seulement la Syrie. La cellule pour prévoir des attentats en France était déjà constituée avant les frappes, a répondu François Hollande, tendu. Ce sont vos déclarations, a lancé l'avocate. Non, c'est un fait objectif que cette cellule existe depuis juin 2014, a-t-il tranché sèchement. Un peu plus tôt, l'ex-chef de l'État avait assumé son action contre l'État islamique. Je referai exactement la même chose, parce que c'est la France, parce que nous le devons aussi aux populations massacrées. C'est un fardeau qui est aussi notre drapeau, a conclu l'ancien président.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1.
Il est de retour sur Terre depuis à peine 48 heures et Thomas Pesquet se voit déjà comme le possible successeur de Neil Armstrong, Objectif Lune.
Il l'a annoncé avant même de quitter l'ISS 50 ans après les premiers pas de l'homme sur la Lune lors de la mission Apollo. La NASA pourrait à nouveau envoyer des humains sur le satellite à partir de 2025, dans l'équipage des astronautes américains évidemment, mais aussi trois Européens et le Français compte bien en faire partie lors d'Autriche.
Tout juste de retour sur Terre, Thomas Pesquet n'a pas caché son intérêt d'aller explorer la Lune.
Moi, je pense que ce qui est enthousiasmant dans le projet qu'on a aujourd'hui d'y retourner, c'est pas juste d'y retourner pour planter un drapeau, ce serait vraiment d'y aller pour des raisons scientifiques, comme on le fait sur l'ISS, et puis d'avoir une présence un peu plus permanente, un peu plus durable.
Et explorer des endroits inconnus de la Lune. Thomas Pesquet est encore jeune, 43 ans, il a à son actif deux séjours réussis dans la Station Spatiale Internationale, et en particulier 39 heures passées en scaphandre à réparer la station les pieds dans le vide. Il a marqué des points et la NASA lui fait confiance, dit Franck Devine, le chef des astronautes européens.
Le fait déjà que Thomas a été nommé comme commandant de la station, ça veut dire qu'il a toutes les capacités nécessaires de prendre des grandes fonctions dans des vols opérationnels et dans des vols spatiaux. Sinon, il ne serait pas devenu commandant pour commencer.
Thomas Pesquet a passé 395 jours dans l'ISS. Il est à ce jour le Français qui a fait le séjour le plus long dans l'espace.
Lors d'Autriche.
C'est une première depuis 2008. Les Bleus joueront samedi au Parc des Princes en qualification pour le Mondial 2022.
Rencontre face au Kazakhstan. Si l'affiche paraît favorable pour l'équipe de France de foot, Jean-François Pérez, le parc n'évoque pas vraiment de bons souvenirs pour eux.
Nous sommes carrément dans les arrêts de jeu. Et là, attention, leur but, terrible. Les Bulgares sont qualifiés pour la Coupe du Monde.
17 novembre 1993, l'un des pires traumatismes du football français. Même Eugène Saccomano sur Europe 1 est sidéré. Les Bleus de Papin, Cantona et d'un certain Didier Deschamps n'avaient pourtant qu'un point à prendre en deux matchs pour aller à la Coupe du Monde aux États-Unis. Résultat, deux défaites cuisantes, 3-2 contre Israël, 2-1 contre la Bulgarie à la dernière seconde. L'actuel adjoint de Didier Deschamps, Guy Stéphan, n'a rien oublié de cette soirée maudite.
Ça se déroulait sur le même stade, au Parc des Princes, j'y étais au match. Donc évidemment, on n'a pas envie de revivre ça et il faudra faire le nécessaire pour gagner le match.
28 ans après, le défi est quasiment identique. Les Bleus seront qualifiés pour le Mondial 2022 s'ils s'imposent. Même un match nul peut suffire. Sinon, il restera deux possibilités. Un déplacement en Finlande dès mardi ou les barrages, dans le pire des cas, en mars prochain. De quoi chasser définitivement les fantômes du parc.
Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1.
Merci beaucoup, Alban Leprince, pour ce journal et à tout à l'heure.
Il est 5h10 et on passe aux courses avec le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Toulouse et mon pari gagnant sera le 603 Kikine Jolie. Longtemps ménagée, cette pouliche tardive qui a encore peu couru et visiblement en plein épanouissement comme le prouve sa dernière sortie dans un handicap similaire où après avoir musardé en queue de peloton, elle est revenue de loin s'adjuger une prometteuse troisième place dans une action qui me laisse à penser qu'elle devrait pouvoir cette fois s'imposer. Alors notez bien, pour cet après-midi à Toulouse, réunion 1, dans la sixième course, le numéro 3, Kikine Jolie.
Et vous revenez dans une demi-heure pour vos pronostics du Quintet. Merci Thierry Léger.
Kikine Jolie, vous Kikine relevez Jolie. Pas
ouais. Bah, je ne peux pas le faire tous les jours. En fait, tous les noms de chevaux, ils sont quand même incroyables. Très beau réveil à tous avec Europe 1. Dans un instant, on va presser la presse.
Oh bah oui, s'il vous plaît, avec au menu du pressing, les 20 ans des experts, une guitare dans la stratosphère et des animaux qui ne manquent pas d'air. Oui, ça rime. À tout de suite.
Ombline Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Bonjour, bon réveil. Il est 5h11. Martin Lange est en train de faire la grasse mat et nous sommes très heureux d'accueillir Cédric Chasseur qui sera aujourd'hui et demain avec nous pour le pressing. Bonjour Cédric.
Bonjour à tous les deux.
Bonjour bienvenue. Cédric.
Il est tôt, mais on est heureux de vous avoir.
Il est en train de faire la grasse mat, à mon avis. Il est plutôt en train de se faire retirer les fesses sur une plage à Copacabana alors qu'il est.
Quelle chance.
On commence avec les unes de vos journaux. L'épopée héroïque des compagnons de la libération, titre Le Figaro, alors qu'Hubert Germain, le dernier d'entre eux, sera inhumé cet après-midi au Mont-Valérien. Un conseil à la une d'aujourd'hui en France. Noël, soyez malins, dépensez moins, titre Le Quotidien. Fini les folies, le budget cadeau est en baisse et plus d'un Français sur deux compte en acheter moins pour les fêtes. Enfin, stupeur et tremblement, c'est le titre à la une de L'Équipe qui revient sur le placement en garde à vue d'une footballeuse du PSG, Aminata Diallo, entendue dans le cadre de la récente agression de l'une de ses coéquipières. Voilà pour les unes. Omblin, quel article avez-vous retenu ce matin?
Alors si je vous dis ADN, Blue Star, empreinte, fibre, un vocabulaire qui n'a plus de secret pour vous depuis 20 ans grâce à une série, vous me répondez ?
Ah bah les experts.
Bien sûr.
Le tueur a jeté de la soude sur le cadavre.
Il a pensé que ça détruirait complètement le corps.
Oui. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mais sans attendre.
Il y a 20 ans, on découvrait les experts à la télé française. C'est Paris Match qui nous fait remonter le temps. En réalité, les experts sont nés un an plus tôt aux États-Unis, sortis tout droit de l'imagination du scénariste Anthony E. Zucker, aidé par sa femme. Alors on est en 2000, il cherche une nouvelle idée de série et sa femme lui parle d'un documentaire sur les techniques scientifiques utilisées par les policiers pour élucider des crimes. Il enquête, ce qui est la base. Il se renseigne, il crée les personnages de Gil Grissom et de Catherine Willow, le producteur, faiseur de blockbusters, citons Top Gun ou Armageddon, on ne connaît que lui, hein, Jerry Bruckheimer, qu'est-ce qu'il est fort. Il est emballé par le projet qu'il décide de financer. Sauf que les chaînes américaines sont nettement moins enthousiastes et refusent le scénario, excepté CBS qui accepte en se pinçant le nez et souhaite quand même laisser sa chance au produit. Les experts, CSI en bon américain, CSI Las Vegas sont programmés en deuxième partie de soirée. Autant vous dire que le succès va mettre très peu de temps à arriver et le carton s'apprête à être planétaire. En France, TF1 renifle le bon filon et diffuse la série à peine un an après les États-Unis. Ça marche si bien que les experts vont se décliner Miami et Manhattan avec Gary Sinise. Lieutenant Dan, ah ouais. Dans Forrest Gump.
Non, bah alors, je me suis arrêté à...
Casting incroyable.
Les experts Las Vegas, moi.
Ah, vous auriez... Ils sont bien, les experts Manhattan.
Bon. Moi, je préfère ceux-là et Miami au premier, tu vois.
Ah, c'est vrai. Ah, on peut lancer un débat. Bon,
on n'a pas vraiment le temps.
Non, alors différentes franchises, mais toujours, et ça pour moi, ça c'est le coup de génie, avec la musique des Who au générique. Pourquoi tant d'engouement autour des experts, autour de CSI? Eh bien déjà parce que ça change de Beverly Hills ou de Walker Texas Ranger. Voilà. On n'a rien à ajouter. Qu'ensuite, le scénario et le scénariste Anthony E. Zucker, et c'est le premier à avoir l'idée de dépoussiérer la série policière, de s'affranchir des codes imposés par Columbo ou de Flic à Miami. Il n'y a pas un ou deux héros, mais toute une équipe et un fil rouge qui relie les épisodes. Bref, les experts feront des petits, mentalistes, esprits criminels, NCIS, mais surtout les demandes d'inscription pour faire des études de criminologie vont exploser. Les experts fêtent leurs 20 ans en France ce mois de novembre et c'est dans Paris Match.
Merci beaucoup, Omblin.
Avec plaisir.
Je trouve que la meilleure chose des experts, c'est quand même le générique des Who.
C'est génial.
On est d'accord. Allez, Cédric, à vous.
Allez, direction la Bretagne. Changement d'ambiance pour rencontrer un guitariste qui ne fait rien comme les autres. Sandy Lavalard a le droit à son portrait dans West France et sur le site de France 3 Bretagne à l'occasion de la sortie de son dernier clip qu'il a révélé hier soir.
Oula.
C'est des gros sons, ça.
Ouais, ça fait peur.
Vous allez comprendre pourquoi après. Sandy Lavalard du groupe Koon est un performeur. Son plaisir, c'est de composer hors des studios, dans des lieux atypiques. Le Morbihanais a déjà joué au bord d'un volcan ou à 3800 mètres d'altitude sur les pentes du Mont Blanc. Mais cette fois, l'artiste ancien développeur de sites web a décidé d'aller plus loin. ou plus haut, devrais-je dire. Le clip démarre sur une piste de l'aérodrome de Quiberon. Il est installé avec une guitare miroir au reflet parfait, une création spécifique de son luthier, car l'instrument pèse moins d'un kilo et ça a son importance. « Cela fait un an que je travaille sur ce projet-là », raconte-t-il. « Ce projet, c'est d'envoyer sa guitare dans la stratosphère à 31 km du sol. » Au bout de quelques minutes, l'artiste se lève, accroche sa guitare à un ballon d'hélium et c'est parti pour l'envol. Alors on suit en musique la montée de l'instrument. Une caméra accrochée à la guitare ne manque rien du spectacle. Les reflets du soleil, la terre, l'espace en fond, c'est absolument somptueux.
C'est très poétique.
Et c'est le plus incroyable, eh bien, c'est que Sandy Lavalard a pu récupérer ensuite sa guitare comme prévu. Le ballon a explosé à 31 000 mètres d'altitude. L'instrument a fait une chute libre à plus de 200 km/h avant de se poser grâce à un petit parachute dans un champ à côté de Châteaubriant. On a attendu des jours et des jours que la météo soit favorable. Il nous fallait absolument des vents d'ouest pour ramener la guitare sur terre et pas en pleine mer, raconte l'artiste. Vous voyez que la performance a été pensée au millimètre près, pas que musicalement. Et l'artiste rêve désormais d'aller sur la Lune. Sa guitare a déjà fait une partie du chemin.
Décidément, il y a beaucoup de Français qui veulent aller sur la Lune en ce moment.
Après Thomas Pesquet, oui, exactement.
Vous en avez raison.
Merci beaucoup, Cédric. J'ai choisi pour ma part un article de L'Express qui m'inspire ce matin une charade. Mon premier veut dire « bête » en anglais. Mon deuxième est l'inverse du « moche ». Et mon tout est le prénom d'un animal à trompe. Je suis...
Alors là... Un animal à trompe, Dumbo. Dumbo.
Oui, exactement, Dumbo qui pourrait bien. Dumbo.
Dumbo, tu voles ! Bête, j'aurais dû y penser plus tôt. Tes oreilles, elles ressemblent, mais bien sûr, c'est des ailes pour voler. Elles te pesaient alors qu'elles sont idéales, tes oreilles, pour envoler dans les airs.
Voilà Dumbo qui pourrait bien devenir une réalité. Et oui, la faute au dérèglement climatique. Ces conséquences nous sont bien souvent abstraites. Hein. Plus 1,5 degré, millions de tonnes de CO2, autant de chiffres dramatiques qui finissent par ne plus vouloir dire grand-chose aux non-initiés. Et pourtant, on ne s'en rend pas compte, mais la nature qui nous entoure s'est déjà lancée dans une course contre la montre pour s'adapter à ces nouvelles réalités. Les animaux notamment, ils n'hésitent pas à changer d'environnement. Vous nous racontiez, Ombline, il y a quelques jours que notre côte atlantique était anormalement saturée de poulpes que l'on trouve habituellement dans les mers plus chaudes du sud de l'Europe. Certaines espèces peuvent également changer leur cycle de reproduction. Les écureuils roux, par exemple, se reproduisent désormais plus tôt, car les températures printanières sont plus élevées. Enfin, le réchauffement climatique peut aussi modifier la forme des animaux. On savait déjà que la hausse des températures a pour effet de réduire leur taille. Et oui, s'il fait plus chaud, plus besoin d'avoir autant d'isolation et donc de graisse. Mais ce que nous apprend également une étude de l'université de Melbourne, c'est que le dérèglement peut aussi modifier la morphologie des animaux. Plutôt que de rétrécir, certaines espèces verraient s'agrandir des parties bien spécifiques de leur corps, par exemple la queue, les oreilles ou encore le bec. Ce sont en effet des attributs qui jouent un rôle crucial dans la régulation de la chaleur interne de l'organisme. Les becs des oiseaux, par exemple, abritent de très nombreux vaisseaux sanguins. Cela permet au contact de l'air d'ajuster la température. En clair, le bec ne sert pas qu'à manger, c'est aussi un thermostat, un échangeur thermique. Or, plus le bec est grand, plus il est efficace pour dissiper ou capter la chaleur. Et c'est ainsi que depuis la fin du 19e siècle, les becs des perroquets australiens ont vu leur taille augmenter de 4 à 10% en moyenne. Ce qui est valable pour les becs des oiseaux l'est aussi pour les oreilles des éléphants d'Afrique. Lors des pics de chaleur, ils concentrent le sang chaud dans leurs immenses feuilles de choux, puis refroidissent le tout en les agitant frénétiquement. Donc non, quand les éléphants font ça, ils n'essaient pas de décoller du sol. Dommage. Ils se rafraîchissent. En revanche, si leurs oreilles venaient à s'agrandir comme celles de Dumbo, on pourrait bien avoir à l'avenir des éléphants volants.
Alors dommage pour la cause, mais ce serait quand même rigolo.
Oui,
c'est très poétique.
Voilà, exactement, décidément ce matin. Merci beaucoup Julien, le pressing c'est fini et on ne manquera pas de recommencer demain avec vous Cédric et surtout on vous retrouve dans une quarantaine de minutes pour les sports.
Avec plaisir,
à tout à l'heure.
Europe Matin. Ombline Roche et Julien Pierce.
5h20 sur Europe 1. Les principaux titres de ce jeudi, c'est le journal permanent avec Alban Le Prince.
Information Europe 1, le gouvernement multiplie et renforce les contrôles aléatoires dans les entreprises. Objectif, traquer celles qui emploient illégalement des étrangers, principalement dans les secteurs de la restauration, du BTP et de la propreté. Les premiers contrôles réalisés révèlent des situations indignes. Yacine Mioub, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre en 2018 de Mireille Knoll. Les juges ont retenu le caractère antisémite et la circonstance aggravante de la vulnérabilité de la victime âgée de 85 ans et atteinte de la maladie de Parkinson. Et puis une nouvelle ère, celle annoncée hier après la rencontre entre Emmanuel Macron et la vice-présidente américaine Kamala Harris, un rendez-vous d'une heure et demie, deux mois après la crise des sous-marins.
Europe 1. Très bon réveil sur Europe 1 avec les initiatives en France, notre coup de projecteur sur celles et ceux qui font bouger les lignes.
Bonjour Antoine Père.
Bonjour, enchanté.
Vous êtes le cofondateur de Just One Card, une jeune entreprise, et vous avez inventé un tout nouveau concept, une carte de visite qui n'est pas en papier et qu'on ne donne jamais à son interlocuteur. Alors ça paraît compliqué dit comme ça, mais c'est en fait très simple, expliquez-nous.
Exactement, alors ça paraît un petit peu paradoxal, mais en fait, avec Just One Card, nous proposons ce qu'on appelle donc des Joe Cards. Donc, ce sont des cartes de visite en bois recyclé, donc noisetier, érable ou cerisier. Et donc à l'intérieur de ces cartes se trouvent des puces NFC, c'est la même technologie qui est utilisée pour les cartes bleues sans contact notamment. Et au dos des cartes, on a aussi un QR code qui est imprimé. Et donc en passant cette carte sur le smartphone d'un utilisateur ou en scannant le QR code, cet utilisateur-là pourra accéder à tout un profil avec l'ensemble des coordonnées, notamment une photo, ses réseaux sociaux, un site web et ses coordonnées plus classiques, entre guillemets, comme un mail, un numéro de téléphone, etc.
Et comment est-ce que je rentre mes informations dans la puce NFC qui est elle-même dans la carte de visite ?
Alors en fait, c'est très simple. Une fois que vous commandez une Joe Card sur notre site, quand vous la recevez, à la première activation, donc soit par NFC, soit par le QR code, vous aurez tout un questionnaire à remplir avec toutes les informations que vous désirez voir apparaître sur votre profil. Et donc de cette manière-là, vous pourrez choisir, par exemple, si vous préférez mettre tous vos réseaux sociaux ou seulement quelques-uns, mettre votre adresse personnelle, mettre l'adresse de votre bureau, etc.
Donc en clair, si je croise un recruteur, par exemple, dans un salon professionnel, je passe ma carte de visite sur son téléphone et là, il reçoit toutes mes informations en un éclair.
Exactement. En fait, il faut donc qu'il active la NFC sur son téléphone. Donc la NFC, c'est une technologie qui est présente sur aujourd'hui 95% des smartphones en vente sur le marché. Sinon, il peut flasher le QR code si jamais il n'a pas la NFC sur son téléphone. Et il ouvrira un URL et il a tout un profil donc avec votre photo, tout votre contact et puis vos réseaux sociaux, etc. Et il y a un petit bouton avec écrit « Ajouter le contact » dessus qui lui permettra d'enregistrer toutes vos coordonnées dans son téléphone en seulement deux clics.
Alors c'est plutôt écologique hein, parce qu'il n'y a plus besoin de faire imprimer des centaines de cartes papier qui pour la plupart ne servent à rien. Et puis c'est pratique puisqu'on peut mettre à jour en permanence ces informations stockées sur la carte.
Quelques statistiques indiquent que 80% des cartes de visite sont jetées dans les deux semaines à venir. Et donc nous, quand on a pensé ce concept, on voulait vraiment avoir une carte évolutive qui peut suivre tous les changements de carrière d'une personne. Et donc en fait, comment ça marche ? Une fois que vous avez rentré vos informations, elles sont à tout moment modifiables puisque nous sommes actuellement en train de développer une web application qui permettra en fait de rechanger à chaque fois ces informations. Donc par exemple, si vous changez d'entreprise, de numéro de téléphone, de mail, peu importe, ce sera complètement évolutif au niveau de la carte et modifiable à distance. Donc vous n'avez rien à faire sur votre carte physique.
Est-ce que les informations qui sont stockées sur la carte sont scriptées ? Parce qu'elles peuvent être sensibles. En tout cas, on n'a pas forcément envie que tout le monde puisse y avoir accès.
Donc nous utilisons une base de données qui est hébergée par Google, donc qui est sécurisée par toute la technologie Google. Et toutes les données sont cryptées de façon à ce que personne ne puisse accéder à votre carte de visite et à vos informations personnelles si vous n'avez pas décidé de lui avoir donné votre carte ou le lien qui mène vers votre carte de visite.
Comment vous est venue cette idée ?
Alors cette idée, en fait, elle nous est venue parce que nous, donc, on a cofondé cette entreprise à trois étudiants de Mines-Nancy, donc une école d'ingénieurs. Et en fait, on est rentré à un moment dans nos études où on a commencé à avoir besoin d'être efficace avec des recruteurs, notamment pour pouvoir transmettre nos coordonnées. Et on a remarqué qu'il n'y avait pas finalement de solution idéale, puisque les cartes papier, comme on l'évoquait juste avant, c'est un objet qui se perd, qui se déchire, qui n'est pas tout le temps à jour ou qui peut être jeté très très facilement. Et cette problématique, elle s'est révélée aussi quand on a une de nos amies qui est en études de cinéma, qui a eu besoin en fait de donner sa carte pour pouvoir avoir accès à des tournages, pour pouvoir être proche des studios de production. Et on a dès lors, avec un petit peu notre curiosité d'ingénieur, regardé ce qui se faisait en termes de carte de visite connectée. On a découvert cette technologie-là, NFC, qui était du coup très très efficace pour ce type d'application. Et donc, en creusant, on a finalement développé notre produit pas à pas au fur et à mesure des prototypes. Et on en est arrivé donc à la Joe Card que nous commercialisons aujourd'hui.
Oui, depuis quelques semaines seulement. Combien coûte l'une de vos cartes ?
Alors, nos cartes, on les vend donc 25€ hors taxe, donc 30€ TTC pour des particuliers. On ajoute un petit frais de personnalisation, donc pour ajouter un logo sur la carte, on vend en plus 5€ hors taxe. Donc globalement, pour un particulier, ça coûtera environ 36€ pour se munir d'une carte parfaitement fonctionnelle et livrée gratuitement.
Et qu'on peut théoriquement conserver à vie. Merci beaucoup Antoine Père de nous avoir présenté votre carte de visite unique et connectée. Ça s'appelle Just One Card. On vous souhaite beaucoup de succès.
Bien, merci beaucoup, merci à vous.
Au revoir.
Au revoir, passez une bonne journée.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Très bon réveil à tous, il est 5h28 sur Europe 1 et voici le programme de la prochaine demi-heure.
On va déguster le traditionnel flan parisien, mais pas n'importe lequel, un champion s'il vous plaît, celui qui a été désigné meilleur flan pâtissier d'Île-de-France. Rendez-vous avec Olivier Pouls dans un quart d'heure à la table d'un petit déjeuner qu'on va dire riche, mais délicieux.
Oui, et puis après on va retrouver ses pères qui traversent la France à pied pour défendre l'égalité parentale.
Faire de la résidence alternée une règle en cas de séparation des parents et non plus une option, voilà la principale revendication de ces marcheurs, des pères, des mères qui ont quitté Marseille hier pour rejoindre Paris. Arrivé prévu le 17 décembre, nous serons avec l'un d'entre eux.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS Agri et CNAPS.
La météo avec vous, Anissa Haddadi, et force est de constater que c'est très couvert ce matin.
Oui, on a un phénomène de basse couche hein, qui est un phénomène de saison. Donc on a beaucoup de brume, de brouillard, de nuages bas ce matin. Alors ça concerne toutes les régions situées au nord de la Loire et puis une partie de l'Occitanie, de la Nouvelle-Aquitaine et puis du Lyonnais. Alors ces nuages bas vont très vite se dissiper comme ces derniers jours. Cet après-midi, on aura du soleil pour presque tout le monde, sauf le bassin méditerranéen. On a encore une journée très agitée avec des pluies fortes sur la Corse et sur le Roussillon. Donc du côté de Perpignan, du côté de la Corse, ça va franchement tomber encore de manière assez importante aujourd'hui. Moins 2 à 14 degrés ce matin, c'est un petit peu plus doux. Et puis 5 à 20 degrés cet après-midi.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h30.
Europe 1.
Question à plusieurs milliards d'euros. Comment financer la construction de nouvelles centrales nucléaires ? Emmanuel Macron souhaite relancer la filière, mais EDF est trop endetté pour en assumer seul son financement. Le soulagement et la psychose à Sablé-sur-Sarthe. 48 heures après la réapparition de la jeune joggeuse de 17 ans, les enquêteurs sont toujours à la recherche d'indices qui les mettraient sur la trace de ses ravisseurs. Situation toujours très tendue à la frontière polonaise où sont massés plusieurs milliers de migrants. Le président biélorusse accuse les Européens d'être responsables de la situation. Et puis, comment survivre dans l'enfer vert ? Le pilote d'un avion de tourisme raconte dans un livre ses 36 jours de solitude dans la forêt amazonienne après le crash de son appareil.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et le journal de 5h30 vous est présenté par Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Qui paiera la facture du nucléaire ? Emmanuel Macron souhaite relancer la construction de réacteurs, mais il n'a pas dit combien et comment. Une chose est sûre, EDF est incapable de financer seul ce programme. La dette du groupe dépasse les 40 milliards d'euros. L'État pourrait venir à la rescousse, mais d'autres questions se posent. L'Élysée devrait préciser son plan dans les prochaines semaines. La filière, elle, se dit prête, mais elle veut en savoir plus, Maud Descamps.
Oui, sur le terrain, les équipes du secteur nucléaire s'interrogent sur le nombre de réacteurs à construire et sur les délais de mise en chantier. Pour Valérie Faudon, déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire, il faut rapidement clarifier les intentions de l'exécutif en matière d'énergie nucléaire.
Ce qu'il faut, c'est passer de l'intention de commande à un vrai cadre contractuel qui permette justement de pouvoir commencer à passer des commandes aux industriels, de pouvoir avec confiance embaucher, former. Ça correspond à peu près à 10 000 personnes et investir dans leur outil industriel.
En avril dernier, EDF a créé avec Pôle emploi une université du nucléaire pour former les techniciens qui interviendront sur les chantiers des EPR, des ingénieurs, des chaudronniers, des soudeurs. Outre le défi industriel, il y a aussi la question du financement. L'EPR de Flamanville a coûté 12 milliards d'euros, c'est trois fois plus que prévu. Le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, estime que la construction de ces nouveaux réacteurs nécessiterait des investissements d'une ampleur rare, a-t-il dit, probablement comparable aux très grands investissements des 30 Glorieuses.
Maud Descendu, service économie d'Europe 1.
Les cérémonies du 11 novembre seront marquées par l'hommage de la nation au dernier compagnon de la libération.
Hubert Germain sera inhumé au Mont-Valérien lors d'une cérémonie présidée par Emmanuel Macron. La France va adresser un ultime au revoir à ce héros de la résistance et fidèle compagnon du gaullisme. Le convoi transportant son cercueil remontera l'avenue des Champs-Élysées, marquera une pause devant la statue du général de Gaulle, puis s'arrêtera à nouveau devant la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe.
L'enquête se poursuit à Sablé-sur-Sarthe, 48 heures après la réapparition de la joggeuse de 17 ans. Les gendarmes sont face à une énigme. Les habitants, eux, cèdent à la psychose.
Qui sont les ravisseurs de Lisa? La jeune fille, toujours en état de choc, raconte avoir été séquestrée par deux hommes à bord d'une camionnette verte. Les enquêteurs cherchent à retrouver leurs traces. Depuis, cette commune de la Sarthe vit désormais dans l'attente et la peur. Reportage de notre envoyé spécial sur place, Océane Théard.
Un petit bar de quartier avec des habitués au comptoir, quelques agences immobilières, une épicerie bio, une atmosphère plus que tranquille. Pourtant, depuis l'annonce de l'enlèvement de la jeune joggeuse, la peur habite Quentin Michel qui demeure juste derrière le restaurant où elle a réapparu.
Ça nous a fait mal au cœur parce que moi, quand je vois ma fille Pauline, elle part de bonne heure le matin et ça fait peur. Et moi, j'ai très peur. Qu'est-ce qui y arrive aussi? Vous voyez, on a mis en place maintenant tous les matins, je l'emmènerai à la gare. Je me lèverai et je dirai, je t'emmène à la gare et je la protégerai. Hein.
Une angoisse constante aussi pour Ludivine, 21 ans, qui habite la même rue, mais également des interrogations qui occupent son esprit depuis mardi soir.
J'aimerais bien savoir, en en savoir un peu plus, les détails de déjà qu'est-ce qui s'est passé dans la forêt, comment elle s'est retrouvée ici, dans quel état elle a été retrouvée et qui est responsable de tout ça au final.
Autant de zones d'ombre que les autorités tenteront d'éclaircir aujourd'hui. Une soixantaine de gendarmes poursuivent l'enquête pour comprendre ce qu'il s'est passé pendant ces 24 heures de disparition.
Océane Théard, envoyé spécial d'Europe 1 à Sablé-sur-Sarthe. Le verdict au procès du meurtre de Mireille Knoll, réclusion criminelle à perpétuité pour Yacine Mioub. Son complice Alex Karim Bakus écope de 15 ans de prison pour le vol de cette vieille dame juive. La cour retient le caractère antisémite de l'agression dans les deux cas. Un témoignage très attendu au procès des attentats du 13 novembre, celui de François Hollande, président de la République au moment des faits. L'ancien chef d'État a été notamment interrogé sur sa gestion de la menace terroriste. Pouvait-on empêcher le Bataclan? Nous ne savions pas où, quand et comment ils allaient frapper, a-t-il expliqué.
On en vient à la crise migratoire entre l'Europe et la Biélorussie. L'ONU convoque en urgence une réunion de son Conseil de sécurité.
D'autant que la tension monte entre la Pologne et la Biélorussie. Varsovie affirme avoir renvoyé des centaines de migrants qui étaient parvenus à franchir la frontière en dépit de l'impressionnant dispositif militaire et policier déployé. Le Premier ministre polonais accuse Minsk de terrorisme d'État. Accusation rejetée par la Biélorussie qui se dit prête au bras de fer avec l'Europe. Son président Alexandre Loukachenko l'a dit au cours d'un entretien à la télévision bélarusse.
Vous avez mis en place des sanctions contre moi, contre tous les Bélarusses. Vous êtes entré dans une guerre hybride contre le Bélarus. Une guerre hybride. Et maintenant, vous voulez que je vous protège des migrants? Mais enfin, ma réponse est celle d'un homme qui raisonne logiquement. Vous avez commencé, et bien vous subissez.
Cette crise migratoire et la montée des menaces de toute nature posent la question d'une défense de l'Europe. C'est le constat du chef de la diplomatie européenne qui appelle les 27 à armer une Europe en danger. Josep Borrell propose de créer une force de déploiement rapide de 5000 hommes.
38 jours dans la jungle amazonienne à lutter pour sa survie. C'est l'histoire vraie que raconte ce rescapé d'un crash.
Oui, une sorte de Robinson Crusoe et moderne. Antonio Serra a échappé une première fois à la mort lorsque son petit avion de tourisme s'est écrasé en pleine forêt amazonienne. Il a dû ensuite survivre dans une forêt hostile. C'est cette histoire qu'il raconte dans un livre qui vient de paraître. Nicolas Caro.
28 janvier 2021, un petit avion survole la forêt amazonienne. Le pilote, c'est Antonio Senna. 36 ans, il doit ravitailler une mine d'or illégale, mais soudain, c'est la panne. Mayday, mayday, et le crash. Miracle, l'avion est en miettes, mais Antonio Senna a survécu. Il a juste le temps d'emporter quelques bouteilles d'eau, de la corde, un couteau, une lampe de poche. Il s'éloigne et l'avion explose. Le voilà seul, perdu au beau milieu de l'Amazonie, sous une pluie ininterrompue avec les jaguars, les serpents et les caïmans. Il décide de marcher tout droit et de survivre. C'est ce qui a séduit son éditeur français, Bernard Fixot.
Comme ça, on se dit, tiens, encore un type qui raconte une histoire, puis on comprend. C'est une réflexion d'un individu qui ne veut pas mourir. On est dans la tête du type, quoi. Il dit dans le livre que le seul moyen, c'est de ne jamais, jamais accepter. C'est un battant, quoi.
Et il survivra 38 jours avant de trouver des secours en se nourrissant comme il peut d'œufs de tinamou géants ou en mangeant les mêmes fruits que les singes. Si c'est bon pour eux, c'est bon pour moi, se dit-il. C'est une aventure extraordinaire, mais aussi une quête de soi.
Nicolas Caro, je vous donne le titre du roman d'Antonio Serra. Restez vivant jusqu'au bout, c'est aux éditions XO.
Merci beaucoup Christophe Lamar pour ce journal. On passe aux courses, les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, c'est sur l'hippodrome de Toulouse que se disputera ce Quintet, un handicap qui réunira un lot homogène de 16 chevaux âgés de 3 à 8 ans qui en découdront sur la distance de 2400 mètres et sur ce terrain annoncé très souple à collant. Il faut privilégier les chevaux ayant l'aptitude aux pistes assouplies, à l'image des numéros 8 Moonwalk Step, deuxième de cette même épreuve il y a 2 ans et toujours aussi performant. 4 Just Formality, 4e en 2018 et 5e l'an dernier, et 15 Oyombre, qui a souvent réalisé un plus en terrain lourd et sur ce type de tracé. Derrière ces 3 priorités, je vous recommande Belgian Prince, le numéro 2, monté par Christophe Soumillon, qui avait le choix entre plusieurs montes dans ce quintet, avec Chris Alsa, le numéro 9, pour lequel son entraîneur Alain Bonin ne m'a pas caché sa confiance. Enfin, les numéros 11, Picnic Royal, 7, L'Indomptable et 13, Piedro, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 8, 4, 15, 2, 9, 11, 7 et 13.
Des pronostics à retrouver dès maintenant sur europe1.fr. Merci Thierry Léger, il est 5h38. Dans un instant sur Europe 1, la marche des pères pour l'égalité parentale.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Très bon réveil à tous avec Europe 1. Il est 5h39 et depuis hier, 10 personnes traversent la France à pied au nom de l'égalité parentale. 8 hommes et 2 femmes partis de Marseille, direction Paris qu'ils comptent atteindre juste avant les fêtes. Nous sommes en ligne avec Rémi Martineau, co-organisateur du collectif La Marche des Pères pour l'égalité parentale 2021.
Bonjour Rémi Martineau.
Bonjour.
Vous êtes marcheur, il y a aussi avec vous Damien, Ludovic, Nicolas et vous êtes d'autres hein, évidemment, des pères, des mères qui après leur séparation ont rencontré des difficultés pour obtenir la garde de leurs enfants. Pendant un mois, vous allez donc sillonner les routes, traverser 14 départements à raison de 25 km par jour. Cette marche est symbolique, mais elle est nécessaire car ce sujet de la garde alternée concerne beaucoup de familles.
Oui, tout à fait. Mais là, voilà, nous, on est un collectif, comme vous venez de dire, d'une dizaine de personnes. Et voilà, on va marcher 800 km pour aller jusqu'à Paris, jusqu'à l'Assemblée nationale.
D'après une étude de l'INSEE publiée en mars dernier en France, la résidence alternée chez les deux parents, après une séparation, ne concerne que 12% des enfants. Quand on sait qu'en Suède ou en Belgique, la résidence alternée est beaucoup plus courante, comment expliquez-vous cette exception française? Pourquoi ça ne marche pas chez nous?
Il y a plusieurs études scientifiques voilà, mondialement reconnues, validées par des centaines d'experts internationaux, qui démontrent pourtant que, y compris pour les jeunes enfants, la résidence alternée, c'est l'organisation la plus bénéfique pour leur bien-être et leur bon développement. Aujourd'hui, en France, il faut savoir que bien souvent, quand les juges des affaires familiales refusent la mise en place de résidence alternée, ils le justifient bien souvent, notamment quand les enfants sont assez jeunes, par rapport au lien d'attachement. Et ils disent que c'est bien souvent la maman. Or, notamment en début d'année, il y a une étude qui est sortie, donc co-signée par 70 spécialistes mondiaux du lien d'attachement, qui disent qu'au contraire, les jeunes enfants n'ont pas une figure d'attachement, mais qu'ils en ont plusieurs, que d'avoir plusieurs figures d'attachement, c'est bénéfique pour eux, et qu'au contraire, donner la priorité à l'une de ces figures d'attachement, eh bien, ça peut être néfaste pour le lien avec les autres figures d'attachement.
Ça bloque aussi au niveau des hommes, au niveau des pères, ils évitent peut-être une bataille de plus, ou est-ce qu'ils sont suffisamment informés de leurs droits?
Ben bon, mais nous, de toute façon, on est conscient aussi de la situation en France. C'est-à-dire que, au moment des séparations, ben, il y a quand même beaucoup de pères hein, qui ne la demandent pas volontairement, sûrement qui ne se sentent pas peut-être prêts à ce mode d'organisation. Et on trouve que c'est vraiment dommage. Peut-être qu'il y a un gros sujet, je pense, vraiment au niveau de la sensibilisation, voilà, au niveau national sur ces sujets-là. Je pense qu'il y en a aussi qui ne la demandent pas parce qu'ils ont peur de ne pas l'obtenir ou qu'on leur déconseille aussi, puisqu'on dit que certains avocats, je pense, disent aussi ne demandez pas ça, vous ne l'aurez pas de toute façon. Il y en a quand même aussi, comme je vous le dis, qui ne la demandent pas volontairement. Quand on voit, donc, la dernière étude INSEE qui vient de sortir en septembre dit qu'en France, il y a une famille sur 4 qui est monoparentale. Moi, je pense vraiment qu'il faudrait vraiment qu'il y ait un débat de société sur ces questions-là, des échanges constructifs. On pourrait organiser, imaginer des plateaux de télé de débats citoyens comme il y en a de temps en temps, où on inviterait des papas, on inviterait des mamans,
et surtout des enfants, des spécialistes de la petite enfance, des politiques, qu'on ait tous un débat sain autour de ces questions vraiment de société, qu'on essaye vraiment de sensibiliser le grand public aux bienfaits de ce mode de résidence. Et peut-être que si le gouvernement en parlait plus et qu'on amenait plus ce sujet sur la table dans les médias et surtout d'une façon saine, et parce qu'on sait que ces sujets sont un peu sensibles et que des fois ils sont mal compris, donc ça peut être un peu clivant, mais si on essaie de les amener d'une façon saine et constructive, ben peut-être qu'on réussirait à augmenter ce taux de résidence alternée en France, qui est, comme vous l'avez signalé au début de l'interview, un des taux les plus faibles en Europe.
Ça sous-entend aussi que les parents vivent dans la même zone géographique. Comment faire quand c'est pas le cas? C'est un problème aussi, ça?
Ben nous, donc une de nos trois revendications, puisque là on a beaucoup parlé de la résidence alternée, mais donc on a trois revendications principales. Donc la première, c'était bien entendu d'appuyer les propositions de loi qui sont en cours pour faire de la résidence alternée un principe de base. Ensuite, on voulait vraiment aussi notre deuxième proposition, donc c'était le respect des lois existantes sur les non-représentations d'enfants. Et la troisième mesure, donc que vous évoquiez, c'était donc essayer d'amener nous des propositions qu'on trouve constructives pour essayer de lutter contre les éloignements géographiques volontaires. Parce qu'au moment de séparation, mais notamment souvent quand les enfants sont jeunes, il y a un des deux parents qui déménage peut-être un peu loin et le juge est obligé de trancher et de mettre la garde principale à un des parents. Et l'enfant se retrouve dès le début de sa vie à devoir grandir en profitant que d'un seul de ses parents. Alors que si au départ, nous ce qu'on propose, c'est vraiment d'essayer d'amener des débats constructifs entre les deux parents, des médiations, vraiment essayer de favoriser le dialogue pour essayer que les parents, on va dire, mettent en place un projet de vie vraiment commun pour leur enfant. On peut pas aujourd'hui, en 2021, en 2022, décider de partir vivre à des centaines de kilomètres avec l'enfant et que l'autre parent se retrouve dépourvu et ne puisse pas le voir. Et c'est surtout en plus très très néfaste pour l'enfant, quoi. Nous, c'est notre position et c'est ce qu'on pense.
Merci beaucoup Rémi Martineau de nous avoir accordé ces quelques minutes sur Europe 1. Vous êtes le co-organisateur du collectif La Marche des Pères pour l'égalité parentale 2021. Vous êtes en route là, en direction de Paris. Cette marche se terminera avec une manifestation le 17 décembre qui reliera la place de la Bastille à l'Assemblée nationale. Ça, c'est votre objectif final.
Je voudrais passer un message parce que nous, on fait cette action-là. Donc, en fin d'année, il y a les présidentielles qui arrivent bientôt. Dans quelques mois, on aimerait vraiment que ces questions de justice familiale arrivent jusqu'aux oreilles de certains candidats à la présidentielle, qu'ils essayent de s'emparer du sujet. Et si certains membres du gouvernement, comme notamment Adrien Taquet, il y a plusieurs courriers qui lui ont été adressés par certains députés notamment, si on pouvait le rencontrer le 17 décembre à Paris pour essayer de dialoguer avec lui, si certains membres du gouvernement nous entendent, on aimerait bien discuter avec eux à notre arrivée à Paris.
Merci beaucoup Rémi Martineau, votre message est passé. Bonne marche!
Il est 6h15 sur Europe 1 et c'est l'heure de la prescription culture avec Olivier Pouls. Bonjour Olivier.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Alors comme tous les jeudis, vous nous faites découvrir ou redécouvrir notre culture gastronomique. Et aujourd'hui Olivier, un dessert tendance et indémodable, le flan.
Et oui, et plus précisément, le flan parisien, je précise. Et je vous avoue qu'il s'agit pour moi, peut-être pour vous aussi d'ailleurs, d'une madeleine de Proust. Vous voyez une fine pâte brisée ou feuilletée, croustillante, avec une préparation moelleuse par-dessus, crémeuse à base de lait, d'œufs, de sucre, de vanille, et selon les écoles de maïzena ou de farine. Bref, un vrai délice à ne pas confondre évidemment avec les préparations industrielles gélatineuses et sans saveur qui, hélas, pullulent aujourd'hui. Mais je vous garantis que croquer dans un authentique flan artisanal, et vous allez le faire dans un instant, est un bonheur absolu. Avec l'opéra, le Paris-Brest ou l'éclair, le flan fait partie de nos incontournables, et disons-le, des indémodables.
Alors Olivier, d'où nous vient cette recette ?
Eh bien le flan est un vieux classique de la pâtisserie. Il est connu depuis le XIVe siècle. On en trouve de nombreuses traces ailleurs qu'en France d'ailleurs. Au Portugal par exemple avec les pastéis de nata ou même en Chine. Et lorsque ce dernier est préparé sur une pâte, il s'agit d'un flan parisien, tout se joue dans ce qu'on appelle l'appareil, c'est-à-dire le mélange qui garnit la pâte. Je vous l'ai dit, il faut des produits de qualité, du lait entier, des œufs de ferme, une très bonne vanille et puis évidemment du savoir-faire. Hélas, beaucoup de flan réalisé avec des poudres industrielles ont l'avantage d'être facile et rapide à préparer. Il se conserve mieux, mais en termes de saveur et surtout de texture, ça n'a rien à voir.
Et puis c'est pas franchement beaucoup plus difficile en plus de le faire à la maison. Les stars de la pâtisserie l'interprètent à leur façon.
Ben oui, parce que le flan a la cote et les plus grands pâtissiers s'y sont mis ou remis d'ailleurs depuis quelques temps avec chacun leur petite astuce pour le rendre le plus savoureux possible. Alors on peut citer Jacques Génin, Christophe Michalak, Christophe Felder, Cyril Lignac, Pierre Chirac, le chef pâtissier de Stéphanie Le Calais et bien d'autres, ils ont chacun leur recette qu'ils ont un peu peine à partager, je vous l'avoue. Il joue certains avec les saveurs et revisite, comme on dit aujourd'hui, ce classique, avec du chocolat, une pointe de citron, quitte à s'éloigner un petit peu de la recette originale.
Et alors Olivier, il existe même un concours pour désigner le meilleur flan d'Île-de-France.
Et oui, et regardez, devant vous, vous en avez une part.
Il est magnifique.
Ben oui, la dernière édition s'est déroulée en juin dernier, pas moins de 84 flans quand même, étaient présents pour concourir au titre, aspect visuel, qualité de la pâte et de la garniture, équilibre des textures, dosage du sucre et de la vanille. Tous ces paramètres sont entrés en ligne de compte et c'est une boulangerie, figurez-vous, située à deux pas d'Europe 1 qui a gagné le meilleur flan d'Île-de-France. C'est Youssef Afrantou de la boulangerie Paris & Co, rue de la Convention, donc juste ici. Et on peut se le procurer sur commande ou sur place. Je vous invite à le goûter. Regardez cette texture.
Il est extrêmement crémeux, oui, c'est ça.
Il est incroyablement équilibré. Alors, il est très généreux en flan, justement. Il y a une pâte qui est très, très fine, croustillante, légèrement caramélisée, et avec un goût de vanille intense. C'est un purement de bonheur. Et puis, petit cadeau, tiens, est-ce que vous savez d'où vient l'expression « rester comme deux ronds de flan » ?
Absolument pas. Est-ce que ça vient du flan ?
Non, pas du
tout. Pas du tout ?
Ça vient de la monnaie. On appelait le flan le métal qui servait à frapper la monnaie. Et quand on avait deux yeux écarquillés comme des pièces de monnaie, on restait comme deux ronds de flan. Rien à voir avec celui qu'on a mangé ce matin.
Merci beaucoup.
Merci Olivier. Olivier.
Bonne journée.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
L'essentiel de l'actualité de ce jeudi à 5h48, c'est le journal permanent avec Alban Leprince.
Un 11 novembre particulier aujourd'hui, puisque le cercueil d'Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération décédé le mois dernier, remontera les Champs-Élysées, hissé sur un char. Il sera ensuite inhumé au Mont-Valérien. Cérémonie à laquelle Marine Le Pen voulait participer, demande refusée par l'Élysée. La réclusion criminelle à perpétuité prononcée à l'encontre de Yacine Mioub, meurtrier de Mireille Knoll, son co-accusé a quant à lui été condamné à 15 ans de prison. Les juges ont retenu le motif antisémite et la circonstance aggravante de la vulnérabilité de l'octogénaire atteinte par la maladie de Parkinson. Et puis le choc au sein de l'effectif féminin du PSG après la violente agression la semaine dernière de l'internationale Kera Amraoui. Sa coéquipière Aminata Diallo a été interpellée et placée en garde à vue hier.
Europe Matin.
On va maintenant au plus près de chez vous avec vos questions, avec vos quotidiens régionaux. C'est en France, un article raconté par celles et ceux qui l'ont écrit.
Bonjour Christian Huot.
Bonjour Julien.
Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes le rédacteur en chef de Nice Matin et vous nous emmenez aujourd'hui à Sofia Antipolis, la technopole plus que jamais à la pointe puisque des navettes autonomes vont bientôt y circuler.
Et oui, c'est ça, absolument. Alors, il faut savoir que la communauté d'agglomération d'Antibes, Sofia Antipolis, est très, très à la pointe de ce genre d'expérimentation. Depuis longtemps déjà, ils s'intéressent aux nouvelles technologies et surtout à l'évolution des transports en milieu urbain. Alors, soit en site propre, ce qui existe déjà à travers un système de bus-tram qui relie la ville d'Antibes, la jolie ville d'Antibes, à la zone de Sofia Antipolis, très high-tech. Et puis là, en 2022, eh bien, en effet, pendant 6 mois, ils vont tester 2 navettes autonomes qui vont ensuite prendre le relais des bus et trams pour desservir des commerces, des restaurants et permettre au public sophipolitain, donc essentiellement des salariés, d'aller faire leurs courses en montant dans des véhicules sans chauffeur.
Ces navettes auront des voies dédiées ou elles circuleront au milieu des autres véhicules ?
Non, elles n'auront pas de voies dédiées justement. C'est toute la différence avec le bus tram qui a fait l'objet de voies dédiées et qui existe déjà sur un parcours qui est d'ailleurs en voie d'achèvement, qui n'est pas totalement terminé. Ces nouvelles navettes, elles circuleront au milieu de la circulation et c'est ça tout l'intérêt de cette expérimentation sur quelques centaines de mètres. Sans chauffeur donc, ce sont des navettes à propulsion électrique qui ont une autonomie de 9 heures et on va voir comment ça se comporte donc au milieu de la circulation.
Oui, c'est toute la complexité de cette expérimentation avec des conducteurs humains et une machine qui par ailleurs doit gérer absolument tout ça en permanence. Tout ça sera gratuit à disposition de tous ?
Oui, ça sera gratuit, à disposition de tous. Ce sont des petites navettes qui sont d'une capacité de 15 places, dont une grosse dizaine de places assises. Elles vont permettre la prise en charge de à peu près 90 personnes par heure et par sens. Donc en fait, tout ça va être assez fluide. Évidemment, on est en train de... Enfin, la CASA, la communauté d'agglomération de Sofia Antipolis, va procéder à quelques aménagements pour refaire l'enrobé, pour que évidemment les conditions de circulation soient optimales. Mais je confirme bien que tout ça fait l'objet d'une expérimentation vraiment absolument sans chauffeur et on va dire sans filet, quelque part.
Il y en a d'autres dans la région, des navettes autonomes, ou en tout cas d'autres projets ?
Alors, il y a d'autres projets, notamment sur la métropole Nice-Côte d'Azur, qui s'intéresse, elle aussi, par le biais de la Smart City de Nice, hein, qui est très, très à la pointe également à ces questions, avec l'Institut méditerranéen du risque de l'environnement et du développement, qui, pour la ville de Saint-Laurent-du-Var notamment, qui fait partie de la métropole niçoise, envisagent eux aussi un véhicule sans chauffeur, qui pourrait desservir une autre zone industrielle importante, à Carros-Lagaude. Alors là, on n'a pas encore de visibilité précise, mais ça pourrait aussi être expérimenté dans le courant de 2022.
Merci beaucoup, Christian Huot, de nous avoir fait découvrir cet article, à lire donc aujourd'hui dans Nice Matin. À très bientôt.
Merci
et
à
bonne
vous.
Journée à vous.
À bientôt. Au revoir.
Très bon jeudi à tous sur Europe 1, jeudi férié, on a des libertés, oui, c'est comme ça. 5h55 dans un instant, la météo, le journal. Et un sujet sérieux, un sujet qui déchaîne les passions, Julien.
L'immigration, voilà un mot qui fait peur et parfois pour de mauvaises raisons. La France aurait tout à gagner à accueillir plus d'émigrés qualifiés, c'est ce que nous dit une note du Conseil d'analyse économique, très sévère sur nos politiques migratoires restrictives depuis les années 90. En gros, à force de considérer les immigrés comme une menace, on n'arrive plus aujourd'hui à convaincre les talents de venir. Ils vont chez nos voisins. Résultat, 38% des titres de séjour que l'on accorde vont à des personnes ayant au mieux le niveau brevet des collèges. C'est un vrai frein pour notre économie et notre rayonnement à l'international. On en parle dans une dizaine de minutes avec la co-auteure de cette note passionnante. Il s'agit de l'économiste Emmanuel Auriol. On écoutera ensuite, Omblin, votre partition.
Ils sont les ambassadeurs de la musique disco-funk des années 2020. Mars et Anderson .Paak forment le duo Silk Sonic, portrait croisé dans 20 minutes, portrait passionnant d'ailleurs, restez là.
Très bon réveil à tous, il est 6h. Le Covid, épisode 5, la mise en garde d'Olivier Véran face à la hausse des contaminations. Hier soir, le ministre de la Santé a aussi évoqué la vaccination des enfants qui pourrait débuter d'ici l'année prochaine. Janvier 2022, c'est aussi la date fixée pour l'indemnisation des victimes de prêtres pédophiles. Oui, mais comment prouver les faits ? C'est la mission de l'instance indépendante déjà au travail. Et puis vous connaissez sûrement le Black Friday, découvrez le Single Day, une opération commerciale gigantesque organisée aujourd'hui en Chine. Le but, célébrer le célibat en s'offrant des cadeaux à soi-même.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et le journal de 6h vous est présenté par Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Après l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la France face à la nouvelle vague de l'épidémie. Alerte lancée par Olivier Véran. Énième rebond des contaminations et toujours cette question. Faudra-t-il bientôt vacciner nos enfants ? Décision attendue d'ici le début de l'année prochaine. Invité hier soir à la télévision, le ministre de la Santé a précisé le calendrier pour les 5-11 ans.
Il va y avoir une étape importante qui est vers la mi-décembre. C'est l'autorité européenne du médicament va nous dire si le rapport bénéfice-risque de la vaccination chez les 5-11 ans justifie de l'autoriser ou non. Et ensuite, les autorités françaises nous diront voilà les avantages de la vaccination chez les moins de 11 ans, voilà éventuellement les inconvénients s'il y en avait, et à partir de là, on décide. Donc il n'y aura pas de décision avant la toute fin d'année ou alors le début de l'année 2022. Ce que les États-Unis nous montrent, notamment l'Agence américaine du médicament, eux considèrent que le vaccin est sûr et efficace. Nous verrons ce que disent les autorités européennes et françaises.
Une première dose, peut-être pour les moins de 11 ans, et une troisième, ça c'est sûr, pour les plus de 65.
Cette injection, ce sera même la condition pour valider son pass sanitaire. Une campagne de rappel élargie aux plus de 50 ans dès le début du mois de décembre. 6 millions de personnes devront relever leur manche avec peut-être une inquiétude. Faut-il redouter d'autres effets secondaires ? Réponse avec Afsane Saboui.
Vous faites peut-être partie des millions de Français qui ont eu un pic de fièvre, des douleurs dans le bras ou encore des symptômes grippaux après l'une de vos injections contre le Covid. C'est ce qu'on appelle des effets indésirables sans gravité. Francesco Salvo est pharmacologue à Bordeaux. Il coordonne le suivi de sécurité du vaccin Pfizer pour la France. Selon lui, il n'y a pas de raison de craindre un effet d'accumulation. La troisième dose n'est pas plus risquée que les précédentes.
Le fait qu'on n'a pas eu d'effet indésirable à la deuxième injection ne veut pas dire qu'on n'aura pas la troisième. Mais il n'y a aucune crainte de différence ni de fréquence, ni d'intensité ou sévérité par rapport à la deuxième.
De nombreux pays ont mis en place des systèmes de pharmacovigilance de grande ampleur pour surveiller les vaccins contre le Covid, ce qui a permis de détecter des effets rares et de faire évoluer les recommandations vaccinales.
On a de plus en plus de données, on a de plus en plus de recul, et donc la campagne vaccinale est de plus en plus sûre en fait. On sait qu'il ne faut pas administrer certains vaccins chez les jeunes. On fait le maximum pour minimiser les risques des patients.
Et enfin, soyez rassurés, le vaccin n'est pas moins efficace si vous ne ressentez aucun effet après la piqûre.
Afsane Saboui, spécialiste santé d'Europe 1.
L'électricité est un bien de première nécessité et c'est même inscrit dans la loi. C'est ce qu'a précisé hier le médiateur national de l'énergie.
Un rappel après la première journée nationale de lutte contre la précarité énergétique organisée hier. Chaque année, 300 000 foyers subissent des coupures de courant à cause de factures impayées. Olivier Chaland-Belval, le médiateur national, réclame donc un droit d'accès minimal à l'électricité.
Peut-être que dans les années 1950, d'être coupé en électricité, ça posait moins de problèmes parce que les usages n'étaient pas les mêmes. Aujourd'hui, ça devient une mesure extrêmement grave avec des conséquences qui peuvent être très importantes, et notamment en termes de lien social, de comment chercher un emploi, comment faire des démarches administratives. Ce que je propose, c'est de mettre un terme aux coupures d'électricité pour impayés, et de remplacer ça par une alimentation minimale tout au long de l'année, de façon à ce que les gens puissent se chauffer un peu en hiver, recharger leur téléphone, utiliser leur ordinateur et avoir un minimum de vie sociale.
Olivier Chaland-Belval, médiateur national de l'énergie, joint par Yasmina Katou pour Europe 1.
Janvier 2022, c'est à partir de cette date que les milliers de victimes de prêtres pédophiles, au moins 330 000, pourront adresser leur demande d'indemnisation à l'Église.
Calendrier précisé par la toute nouvelle instance indépendante. À sa tête, une présidente, Marie Desrains de Vaucresson, qui travaillera en totale autonomie pour gérer les dossiers des victimes sans réveiller de nouvelles souffrances. Virginie Riva.
Devoir raconter de nouveau son histoire quand on a eu le courage de témoigner devant la commission Sauvé, c'est quelque chose qui sera coûteux pour Marie-Claire. Victime de son oncle prêtre lorsqu'elle était enfant, la présidente de l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation réfléchit justement à comment travailler avec Jean-Marc Sauvé pour ne pas infliger cette épreuve une nouvelle fois aux victimes. Marie-Claire, elle, attend désormais un geste concret de reconnaissance.
Alors, recevoir cet argent, pour moi, c'est pas tout à fait une réparation, parce que la réparation, j'ai 64 ans aujourd'hui, les agressions ont eu lieu de mes 5 à 11 ans, donc la réparation je l'ai faite pratiquement toute seule, donc je compte pas là-dessus. Si j'avais attendu l'Église, il y a longtemps que je serais morte, hein. Donc c'est plutôt un dû, une reconnaissance officielle de la faute et des crimes qui ont été commis, bien sûr.
Comment prouver les faits, se demandent aussi les victimes. Marie-Claire le dit, elle n'a que sa parole et la lettre de son frère, écrite avant de se suicider, lui aussi victime de son oncle prêtre. Sa question, c'est quoi faire de cet argent ensuite ? Marie-Claire voudrait en faire quelque chose qui ait pour elle du sens.
Virginie Riva.
Vous connaissez sûrement le Black Friday. En France, c'est le 26 novembre. Mais avez-vous déjà entendu parler du jour des célibataires organisé aujourd'hui en Chine ?
Et ça s'appelle le Single Days, une opération commerciale créé par les géants du e-commerce. Le but, célébrer le célibat en s'offrant des cadeaux à soi-même. L'édition 2020 s'était clôturée sur un chiffre d'affaires record. Un phénomène étonnant que décrypte notre correspondant à Pékin, Sébastien Lebelzik.
Des centaines de millions de Chinois font la chasse aux promotions. Dans une ambiance de kermesse, on suit en direct les chiffres de vente avec un présentateur exalté. Va-t-on battre le record de l'an dernier ? Réponse, dans quelques heures. En 2020, 65 milliards d'euros de marchandises ont été vendus pour ce 11-11, traditionnellement la fête des célibataires devenue en Chine la foire aux bonnes affaires. Le e-commerce représente en Chine 20% des ventes de détail. C'est deux fois plus qu'aux États-Unis ou en France. Amazon est quasiment absent du pays et les champions nationaux s'appellent Taobao, JD.com ou Pinduoduo. Les ventes de l'e-commerce ont atteint l'an dernier 1600 milliards d'euros, soit plus que les marchés américains et européens réunis. Au-delà de sa taille, le marché chinois s'est transformé en laboratoire du secteur de la distribution avec le live streaming, devenu l'un des piliers de ce nouveau commerce chinois. Une grande partie de ce 11-11 se déroule ainsi en direct sur les réseaux. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
Et vous l'ignorez peut-être, mais même chez nous, ça arrive ce Single Day. J'ai regardé, il y a des enseignes françaises qui proposent des promotions aujourd'hui. Mmh. Je vous rassure, ce n'est pas uniquement pour les célibataires.
C'est, on nous voilà rassurés. Merci beaucoup, Romain Oquet, pour ce journal.
Il est 6h07 et c'est les sports.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports avec Cédric Chasseur et nous sommes aujourd'hui à 85 jours du début des Jeux Olympiques d'hiver à Pékin.
Des Jeux qui pourraient être menacés par la situation sanitaire sur place, mais le CIO se veut rassurant. Pour Christophe Duby, directeur exécutif des Jeux Olympiques, les athlètes peuvent se préparer sereinement pour l'événement.
Je dirais aux athlètes et à leur entourage qu'ils n'ont pas de raison d'être inquiet pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous avons publié les playbooks qui sont nos directives pour tenir des jeux d'hiver en temps de pandémie et c'est extrêmement détaillé. La deuxième raison, pour les rassurer, nous avons des épreuves tests qui sont en cours. Et toutes ces épreuves se déroulent sur des terrains de jeu qui sont exceptionnels. Les sites sont vraiment incroyables. Aujourd'hui, oui, il y a un certain nombre de détails qui sont encore à régler, mais on parle bien de détails à ce stade.
Christophe Duby au micro d'Axel May. Des Jeux de Pékin que tenteront de rejoindre l'équipe de France féminine de hockey sur glace. Début aujourd'hui pour les Bleus du tournoi qualificatif en Suède.
En basket, Cédric, c'est le grand retour de l'équipe de France féminine, médaillée de bronze aux Jeux de Tokyo.
Une formation désormais entraînée par Jean-Aimé Toupane qui affronte ce soir l'Ukraine à Kiev dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2023. Le sélectionneur qui a intégré trois nouvelles joueuses qui évoluent d'habitude avec l'équipe de France à 3 contre 3. Alors ça change quoi de se retrouver chez les grandes sœurs du 5 contre 5? La réponse de Mamignan Touré.
Ça change que je suis sur un parquet, mes genoux me disent merci. Et non, c'est un plaisir parce que ça reste du basket. Je suis très contente d'être avec l'équipe nationale de 5-5. C'est aussi la preuve qu'on peut faire la passerelle. Et voilà, c'est de se dire tu intègres ce groupe qui est très ambitieux. Elle ressort d'une très belle campagne cet été. Tu as juste envie de faire au moins la même chose, voire mieux.
Mamignan Touré. En bref, deux infos pour finir. En football, Ligue des champions féminines, Lyon s'impose 2-1 face au Bayern Munich lors de la deuxième journée de la phase de poule. Et puis en tennis, suite du Masters Next Gen, avec un match de fou hier entre Hugo Gaston et Lorenzo Musetti. C'est finalement l'Italien qui s'impose en 5-7, mais le Français peut encore accéder aux demi-finales.
Merci Cédric, c'était le journal des sports de Cédric Chasseur.
Restez avec nous dans un instant, cette question: pourquoi la France a-t-elle tout faux sur l'immigration? La réponse, c'est dans deux minutes. A tout de suite.
5h, 6h30.
Europe Matin.
Excellent début de matinée sur Europe 1. Il est 6h11. Votre invité ce matin, Julien, est professeur à la Toulouse School of Economics et membre du CAE.
Le Conseil d'analyse économique qui vient de publier une note passionnante sur un sujet inflammable, a fortiori à 5 mois de la présidentielle. Bonjour Emmanuel Auriol.
Bonjour Julien.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes la co-auteure de cette note qui s'intéresse à notre immigration. C'est un sujet que l'on aborde systématiquement sous l'angle identitaire, sécuritaire, mais très rarement sur le plan économique. Et pour cause, seulement 13% des personnes qui viennent en France le font avant tout pour travailler. Et vous nous dites que c'est bien dommage pour notre croissance.
Oui, tout à fait, puisque l'économie économique, donc l'économie de travail, hein, c'est vraiment une source d'enrichissement pour les pays. Et c'est un bienfait dont la France se prive purement et simplement, puisque nous avons très très peu d'immigration de travail. Et or, cette immigration, notamment qualifiée, c'est l'objectif qu'on a dans cette étude, de montrer en fait tous les bienfaits qu'elle apporte à une économie. Juste pour donner un chiffre, je trouve très parlant, aux États-Unis, on a dans la population totale 13% d'immigrés. Or, parmi les créateurs d'entreprises, ils sont 25%. Et parmi les innovateurs, donc ceux qui déposent des brevets, ils sont aussi 25%. Évidemment, ces gens-là sont des gens qualifiés pour poser des brevets, pour créer des entreprises. En général, il vaut mieux être qualifié.
Vous écrivez également, les pays qui ont les plus hauts taux d'immigration sont tous des pays riches. Or, contrairement aux idées reçues, la France accueille proportionnellement bien moins d'immigrés que nos voisins. Et surtout, ils sont majoritairement peu qualifiés. 38% ont un niveau égal ou inférieur au brevet des collèges.
Oui, tout à fait. Alors en fait, c'est lié, ces deux choses-là. C'est que la France s'est complètement fermée à l'immigration économique. On en a fait un sujet, donc quand on parle du nombre d'immigrés en France, c'est comme si on comptait les nombres de morts sur la route. Hein. C'est une mauvaise nouvelle, toujours. Or, quand on fait ça, évidemment, les gens qui ont le choix, les gens qui sont qualifiés, ils sont mobiles. Beaucoup de pays se battent pour attirer les talents. Eh bien, ils préfèrent aller là où ils sont bienvenus que là où ils ne le sont pas. La France, donc, envoie un message clair. Vous n'êtes pas bienvenue chez nous si vous êtes qualifié et que vous souhaitez donc travailler.
Donc le discours donc, actuel politique qui est très négatif sur l'immigration, qui dit en gros, l'immigration c'est le grand remplacement, on va tous s'appeler avec des prénoms d'origine étrangère, tout ça c'est extrêmement négatif pour notre économie, pour le rayonnement de notre économie.
Ah, tout à fait, hein. Ça nous prive de gens mobiles, très qualifiés, des ingénieurs, des chercheurs, qui préfèrent, il faut bien le comprendre, mettez-vous à leur place, les auditeurs peuvent le faire. Vous avez un enfant, il doit partir en mobilité quelque part, il y a un pays qui fait de la lutte contre l'immigration un étendard, vraiment quelque chose de très bruyant, et d'autres pays comme le Canada qui disent, ben, soyez bienvenus, on a un système à points, essayez de voir si vous avez les qualifications qui nous intéressent, et si c'est le cas, on vous accueillera bras ouverts. Ben, vous envoyez votre enfant là où il sera bienvenu. Et donc, les mobilités internationales se font sur ces critères-là. La France est donc très pénalisée dans sa croissance par ce discours ambiant et cette politique très hostile à l'immigration qualifiée de travail.
On précise qu'on parle là bien d'immigration légale, hein.
Ah ben oui, de toute façon, oui, bien sûr, on ne parle que d'immigration légale. Mais l'immigration légale en France, elle a été... De fait, de ces politiques extrêmement restrictives, elle est complètement limitée au strict minimum, c'est-à-dire l'immigration de droit. Celle-là, on ne peut pas l'enlever à moins de quitter l'Union européenne, à moins de renier nos accords internationaux. C'est pour ça que notre immigration, en fait, est faible par rapport à nos concurrents comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, mais aussi la Suisse, le Luxembourg, tous les pays d'Europe dynamiques, et bien sûr les États-Unis, le Canada.
Vous revenez notamment sur notre déclin dans le domaine des vaccins à travers cet exemple que je trouve extrêmement parlant. Que ce soit BioNTech ou Moderna, les deux premières entreprises à avoir trouvé un sérum contre le Covid, dont toutes les deux ont été fondées par des immigrés.
Oui, alors, et les gens peuvent le comprendre tout à fait, nos auditeurs, enfin les auditeurs sont déjà très intelligents. Donc pourquoi ? Parce que les immigrés, notamment qualifiés de travail, c'est des gens en fait qui ne sont pas des gens ordinaires. C'est pas tout le monde qui décide de partir en mobilité, en migration. C'est très coûteux, c'est très angoissant. Vous coupez de vos bases, vous coupez de vos proches, et donc ça sélectionne en fait des gens qui sont très ambitieux d'une part et qui aiment le risque d'autre part. Or ces deux qualités-là, évidemment, sont indispensables à la fois pour créer des entreprises et pour innover. Et la France a une élite malheureusement qui est très peu diverse puisqu'on est fermé à l'immigration depuis plus de 30 ans, immigration qualifiée de travail. Et de ce fait, notre élite, elle est sélectionnée sur d'autres critères qui sont la capacité à reproduire des savoirs complexes. Les classes préparatoires font cela, par exemple. Et malheureusement, pas tellement l'appétence au risque ou une ambition démesurée qui ferait que vous traversez les frontières pour réaliser votre potentiel.
Donc en clair, un immigré qualifié est plus bénéfique pour l'économie qu'un Français de souche, entre guillemets, à diplôme équivalent.
En tout cas, je ne dirais pas qu'il est plus bénéfique, mais il apporte quelque chose que n'a pas ce Français, que ce Français ne peut pas avoir à diplôme équivalent. Il apporte aussi autre chose qui est très important pour la recherche, pour la créativité, c'est qu'il a grandi dans un système éducatif différent. Or, plus on met des équipes diverses, ça a été démontré par exemple pour le sport de haut niveau, mais aussi pour la recherche, pour les entreprises, d'avoir des équipes diverses en termes de processus cognitif, évidemment, ça permet de trouver des solutions qu'on n'aurait pas trouver si on raisonne tous de la même façon. Et cela encore, ce n'est pas quelque chose qu'on peut imiter avec un système éducatif national.
En un mot, Emmanuel Auriol, que préconisez-vous pour que l'on redevienne à nouveau attractif ?
Alors, ce qu'on préconise, c'est en fait de renforcer les dispositifs qui existent. À ce jour, il existe un seul dispositif, un seul, vous m'entendez bien, qui permet aux talents de nous rejoindre. Ça s'appelle le passeport talent. En fait, c'est pas un passeport, c'est un visa pour 4 ans. C'est un titre qui est très peu délivré, 10 000 titres par an. Bon, c'est vraiment ridicule vu notre population. Et de ce fait, nous suggérons d'abord de le renforcer. Mais surtout, nous proposons de mettre en place un permis à points, un système de visa à points sur le modèle canadien. Qui a fait ses preuves. Pourquoi ? Parce que ça permet de répondre à plein de questions et de problèmes qu'a la France. Notamment, nous avons 100 métiers en tension aujourd'hui.
Oui.
50% des entreprises cherchent des salariés qu'elles ne trouvent pas. On peut, dans le contexte très flexible d'un système de visa à points, mettre des points positifs, par exemple.
Et soulager nos entreprises qui ont du mal, évidemment,
exactement,
à recruter en ce moment. Merci beaucoup, Emmanuel Auriol. Je suis désolé, on est obligé de s'arrêter là. Je rappelle que vous êtes professeur à la Toulouse School of Economics et membre du Conseil d'analyse économique. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin et à bientôt.
Avec grand plaisir. Au revoir.
6h18, restez avec nous sur Europe 1 dans un instant, la partition de Silksonic.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Les principaux titres de ce jeudi avec Alban Le Prince.
Le gouvernement multiplie et intensifie les contrôles dans les entreprises. C'est une information Europe 1. Objectif, traquer et sanctionner celles qui emploient des étrangers en situation irrégulière. Réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui sur la crise migratoire à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie où sont massés des milliers de migrants instrumentalisés par Minsk. Et puis deux jours avant la fin de la COP26 à Glasgow, la Chine et les États-Unis, premiers émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre, ont annoncé hier un accord surprise pour renforcer leur action climatique sans détails précis.
On termine avec votre partition, Omblin, et c'est l'une des collaborations les plus enthousiasmantes du moment. Sous le nom de Silk Sonic, Bruno Mars et Anderson .Paak unissent leurs talents et leur énergie pour faire revivre l'âge d'or de la soul.
Grâce à Silk Sonic, Julien, on s'offre un voyage dans le temps pour se retrouver au cœur des studios américains qui ont écrit un large chapitre de l'histoire du rhythm and blues dans leur table de mixage, qu'on imagine analogique, sort le son old school du label Motown à Détroit ou Stax à Memphis, des cuivres, des synthés, des micros reliés aux amplis avec des fils et des costumes, tout ça sorti.
Présentez-nous les deux protagonistes de Silk Sonic.
Anderson .Paak d'abord, ce musicien métis californien de mère coréenne et de père afro-américain, aussi doué derrière une batterie qu'un micro à la main. Anderson .Paak, célèbre pour sa gaieté et son sens du rythme implacable, il s'est imposé comme l'un des artistes majeurs de la scène rap mondiale en multipliant les collaborations.
Il doit d'ailleurs beaucoup au producteur mythique Dr. Dre.
C'est lui qui présente Anderson .Paak aux yeux du monde en 2015 lorsqu'il l'invite sur son album. The block, we got caught at the light out my window. I was shooting my shot.
Anderson .Paak a 4 disques à son actif.
Une discographie sous forme d'autobiographie. Les albums s'appellent Venice, Malibu, Oxnard, Ventura. On parcourt la côte californienne avec comme escale les villes, les quartiers où il a vécu.
Et il y a 4 ans, Anderson .Paak a assuré la première partie de Bruno Mars.
À croire que le courant entre ces deux-là est bien passé. Bruno Mars, c'est l'autre moitié de Silk Sonic, nommé Little Elvis sur son île natale d'Hawaï. Tellement son imitation d'Elvis Presley est bluffante, c'est ce que raconte la légende familiale. Le magazine Forbes l'appelle plutôt la superstar sans effort.
Bruno Mars a 18 ans lorsqu'il s'envole pour Los Angeles tenter sa chance.
Il gagne sa vie en écrivant pour les autres, puis devient un chanteur à minette. Très convaincant grâce à sa voix fluette, mais il comprend vite que la voix musicale est multiple. Bruno Mars se révèle avec un col de chemise pelle à tarte et une boule à facettes qui tourne au centre de la piste. Sans aucune fausse nostalgie, il remet la black music des années 70 et les danses parfaitement chorégraphiées au centre de son répertoire. Alors oui, Bruno Mars et Anderson .Paak n'ont peut-être rien inventé, mais avec Silk Sonic, ils sont incontestablement les nouveaux princes du disco funk. Anderson .Paak, ou plutôt leur projet commun Silk Sonic, leur album An Evening with Silk Sonic sortira demain.
Merci beaucoup Omblin. Restez avec nous, la suite de votre matinale dans un instant avec Dimitri Pavlenko évidemment. À tout de suite.
Europe Matin.
6h27, merci d'avoir choisi Europe 1 ce jeudi matin, ce jeudi férié. On vous dit à demain dès 5h.
Et on vous laisse en compagnie de Dimitri Pavlenko.
Elle
bonjour Dimitri.
Elle a son sac sur l'épaule, le manteau.
Elle est dans la voiture déjà, ouais. C'est ça. Ah bon, c'est férié,
Gérard,
c'est férié.
Fait chauffer le moteur.
C'est, ouais. C'est férié.
Ben oui, vous allez aux commémorations du 11 novembre, mon Blin. Vous avez rendez-vous à 11h.
De sur ce la... pas.
Eh ben oui, devant le monument aux morts. Ben oui, c'est aujourd'hui.
À la crédibilité.